L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine, présentée par Bérénice Deville.
Et bonjour à tous, bienvenue sur Radio Patrimoine et sur Radio Imo pour ce nouveau numéro de l'Hebdo Patrimoine. Alors aujourd'hui c'est exceptionnel, nous sommes aussi en direct sur Radio Imo. Comme chaque semaine, on est ensemble pour l'Hebdo Patrimoine. Normalement, on décrypte l'actualité économique, financière et immobilière. Aujourd'hui c'est un jour un peu spécial puisqu'on fait une émission spéciale Ukraine, l'humain avant tout. Voilà, suite à l'invasion russe en Ukraine. J'ai à mes côtés deux françaises ukrainiennes nées en Ukraine. Alors, à ma droite, déjà Anna Zilchuk, responsable marketing chez Alderan. Bonjour.
Bonjour.
Et à ma gauche, Tatiana Bondard, directrice associée chez Immo Direct Promoteur. Bonjour.
Bonjour.
Alors, mesdames, j'aurais préféré vous inviter pour votre métier. Hélas, là, je vous invite pour vos origines, puisqu'on va parler justement de votre famille, de vos familles qui sont en Ukraine, de vos amis. On aura aussi avec nous en ligne Walter Apiak, qui est trésorier de la paroisse ukrainienne Saint-Athanase à Lyon. Bonjour, Walter.
Bonjour.
Avec un très beau suite qui va justement faire le point. On va faire le point sur les dons, sur ce qui se passe. Il y a énormément de solidarité en France. Et puis, on aura aussi en ligne une personne, une habitante, une Russe qui habite Moscou, qui parle français, qui parle bien français, voilà, qui témoignera de façon anonyme. L'émission spéciale Ukraine, l'Hebdo Patrimoine spéciale Ukraine, l'humain avant tout, c'est maintenant.
L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
Alors, on commence cette émission, donc 23e jour d'invasion. J'aime pas dire guerre parce que c'est pas vraiment une guerre, en fait. C'est clairement une invasion russe en Ukraine. Alors, on va commencer avec vous, mesdames. Donc, Anna, vous avez de la famille en Ukraine, à Rivne.
C'est ça.
Comment ça se passe? Alors, est-ce que déjà vous les avez eu au téléphone ce matin?
Non, ce matin, non, puisque nous avons commencé à travailler tôt. Je les ai eu en revanche hier. Les gens se portent bien, entre guillemets, physiquement, sont en sécurité relative. Mais c'est sûr que c'est difficile pour tout le monde. Personne n'est rassuré et ça commence à faire beaucoup, la 23e journée. Et on sent clairement qu'il y a une sorte d'épuisement mental, on va dire.
D'accord. Donc, vous avez vos parents là-bas, c'est ça?
Oui.
Et du coup, alors, comment ça se passe? Est-ce que vos parents sont partis en Pologne ou pas? Ils sont de Rivne, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça. Ma maman est actuellement en Pologne.
D'accord. Et votre papa est resté en
oui.
Ukraine pour combattre?
Si nécessaire.
Ouais. Et comment ça se passe? Ils sont en appartement, en maison? Parce que bon, l'Ouest est moins touché pour l'instant, que l'Est. Bon, même si ce matin, il y a eu des bombardements à quelques kilomètres de Lviv.
Quelques jours, il y a eu des bombardements à 15 kilomètres de chez eux. Donc, la sécurité est toujours toute relative.
Et comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des sirènes?
Oui, il y a des sirènes qui retentissent plusieurs fois dans la journée. Et dans ce cas-là, ils vont s'abriter dans les sous-sols de leur immeuble.
D'accord. Tatiana, vous, comment ça se passe pour votre famille? Il y a des personnes de votre famille qui sont venues en France, chez vous?
Tout à fait. J'ai mon oncle qui repart demain, d'ailleurs, en Ukraine, à Rivne, parce qu'il veut protéger aussi son pays. Il ne peut pas se permettre de rester tranquillement en France, malgré son âge, parce qu'il a 60 ans, il a droit à quitter le pays. Mais il a pris la décision de revenir en Ukraine. Ma grand-mère, elle est là-bas, sur place, à Rivne. Elle vit dans une maison, dans le centre-ville, avec volet fermé, 24 heures sur 24. Et effectivement, maintenant, elle dit qu'il y a tellement de sirènes. Des fois, c'est toute la nuit, ça dure qu'elle ne réagit plus maintenant. Elle dit avant, on s'est réfugié un petit peu, mais maintenant, on est presque habitué, malheureusement, à cet événement. Et elle dit tant pis, je veux vivre à peu près normalement, si on peut dire ça comme ça, parce que de toute façon, ce n'est pas possible aujourd'hui. Ouais. Mais en tout cas, ça rentre dans l'habitude, malheureusement.
Et là, vous disiez, votre oncle a fait le choix de repartir. Il y en a beaucoup qui sont repartis, des Ukrainiens qui ont mis à l'abri leurs femmes, leurs enfants, qui sont repartis. Bon, vous le disiez, quand on a moins de 60 ans, normalement, on doit rester en Ukraine. Mais il y a des Ukrainiens qui ont plus de 60 ans, qui décident d'aller combattre. Il y a même des non-Ukrainiens qui vont combattre en Ukraine. Il y a une résistance qui est incroyable. Je crois qu'on est tous bluffés par cette mentalité, en fait, cette force des Ukrainiens.
Je suis plus que jamais fière d'être ukrainienne. Et vraiment, le peuple ukrainien, c'est vrai, peut-être on n'était pas connu comme tel, mais malheureusement, à cause de cette situation, grâce aussi, on a montré notre mentalité, mentalité des Ukrainiens, des fraternités. Effectivement, on est très, très touchés aussi par l'aide des autres pays. Effectivement, c'est très touchant.
Alors justement, on va en parler. Walter est avec nous. Bonjour, Walter Apiak.
Bonjour.
Alors, vous êtes trésorier de la paroisse ukrainienne à Lyon, Saint-Athanase.
C'est ça.
D'origine ukrainienne également. Et alors justement, on va parler des dons. Il y a eu énormément de dons. Alors à Saint-Athanase, il y a eu tellement de dons que ça a dû être stoppé puisqu'il n'y avait plus de place pour stocker les dons.
Tout à fait, on a été submergé par un élan de générosité. Tout a commencé le samedi qui a suivi l'attaque de la Russie. Le prêtre de Marseille, le père Mekola, nous a appelé pour dire que deux semi-remorques allaient rentrer en Ukraine à vide et qu'il était... Donc dommage de les faire rentrer à vide, et qu'on pouvait organiser une collecte. C'est ce qu'on a fait, on a lancé un appel sur les réseaux sociaux, donc le samedi matin, je crois, le mercredi, on a pu faire partir plus d'un semi-remorque plein. Un était complètement plein, un deuxième était complété. On a été très vite débordé. Dès que le semi-remorque est parti, d'autres dons sont arrivés. On a reçu des vêtements en très grande quantité, de la nourriture, des médicaments, au point qu'en effet, comme vous l'avez dit, l'église était pleine à craquer, on pouvait à peine célébrer la messe le dimanche d'après. Donc on a été obligé de, un, l'interrompre momentanément, et deux, de ne plus accepter les vêtements, parce que d'une part, nous n'avions plus la place, et d'autre part, les gens en Ukraine nous disaient que c'était plus leur priorité.
Oui, la priorité c'est quoi? C'est médicaments, produits pour bébés?
Oui, vraiment, les médicaments de premier secours, les produits pour les bébés, les produits d'hygiène et l'alimentaire. Alors, de l'alimentaire qui soit non périssable, évidemment, oui. Et consommable immédiatement. Au début, beaucoup de gens, et moi le premier, on pensait des pâtes, du riz. Mais en fait, parfois, même dans les abris, ils ne peuvent pas cuire, ils ne peuvent pas chauffer. Et donc, cuire des pâtes, ce n'est pas forcément possible. Donc, on privilégie les choses... que les gens puissent manger directement.
Donc des conserves, qu'on peut ouvrir tout de suite et manger directement.
Des barres céréales, des biscuits, des choses qu'on puisse, comme vous l'avez dit, manger tout de suite.
Alors, on va parler justement à Lyon. Il y a eu énormément de solidarité de la part de la mairie aussi. Transport en commun gratuit pour les Ukrainiens.
Tout à fait. Les réseaux de transport en commun, les TCL, offrent à tous les réfugiés qui arrivent sur présentation de leur passeport un abonnement gratuit jusqu'à la fin du mois d'avril.
Et alors, juste en plateau, Tatiana et Anna, je crois que vos mairies aussi respectives, donc vous êtes en banlieue parisienne, pareil, il y a eu un énorme élan de solidarité de la part de vos mairies.
Oui, tout à fait. Dimanche dernier, je suis allée à un rassemblement organisé par le service de la protection civile de la Seine-et-Marne. Et j'habite dans une toute petite commune du Val d'Europe. Et même à l'échelle d'une petite commune de 8000 habitants à peu près, la salle était bondée.
D'accord.
C'était les organisateurs de l'événement étaient vraiment surpris de voir la mobilisation que cela a suscité. Et en fait, il y a plus de volontaires que besoin de main-d'œuvre.
C'est beau de voir ça. Enfin, c'est beau dans ce malheur. Vous, Tatiana, il y a un magasin aussi qui a été ouvert dans votre ville.
Tout à fait. Il y a aux Allouez-le-Roi, il y a le magasin qui s'est ouvert pour les Ukrainiens. Tout est gratuit dans le magasin. Il y a le vêtement, il y a des vêtements, il y a évidemment la nourriture. Et il faut juste présenter le passeport. Et effectivement, la mairie d'Orgeval et Vilaine-sur-Seine participe énormément, avec aussi des habitants qui proposent à remplir les frigos aux gens qui viennent d'Ukraine, à les accueillir chez eux gratuitement. Et les mairies sont aussi mis à disposition les appartements d'urgence, qui sont meublés entièrement aussi. Et c'est les mairies aussi qui s'en occupent de remplir les frigos et de faire les courses tous les jours. Et même la cantine de l'école, ils donnent les repas qui sont en trop chaque jour dans leur école aux gens d'Ukraine.
Pour les femmes et les enfants qui arrivent.
Tout à fait.
Walter, justement, on parle des enfants. À Lyon, il y a des enfants ukrainiens, des quarts d'enfants ukrainiens qui sont arrivés, que vous avez relogés.
Tout à fait. La région lyonnaise, et en particulier la commune de Saint-Pierre-de-Chandieu, a un lien particulier avec une école de danse à Lviv, l'école des Joyeux Petits Souliers. Et chaque année, ces enfants venaient deux fois par an faire des galas de danse en France, en région lyonnaise, mais pas seulement, dans toute la France. L'objectif de ces galas était de récolter de l'argent pour les hôpitaux pédiatriques, en Ukraine. Depuis le Covid, les tournées avaient été interrompues. On espérait les reprendre là au printemps. Malheureusement, la guerre rend la chose impossible, mais on a gardé ces liens de solidarité. Et dès le jeudi, une semaine donc après l'étanchement de la guerre, le jeudi d'après, un premier car est arrivé avec une cinquantaine de personnes, des enfants et des mamans. Aujourd'hui, on en est déjà au septième car qui arrive d'Ukraine, donc à chaque fois 50 enfants, donc ça fait 50 personnes. Donc ça fait à peu près 350 personnes de Lviv qui ont pu quitter l'Ukraine et qui ont trouvé refuge dans des familles d'accueil françaises.
Oui, parce que ces enfants, ils viennent sans leurs parents pour la plupart ?
Pour beaucoup. Certains viennent accompagnés de leur maman, d'une grande sœur, mais beaucoup viennent aussi seuls ou avec leurs frères, leurs grandes sœurs. Et ils sont accueillis dans des familles qui ont l'habitude d'accueillir ces enfants lors des tournées, d'habitude.
Donc, ils connaissent les familles qui accueillent, pour la plupart.
Exactement.
Et voilà, les parents...
Soit ils connaissent les familles, soit les familles savent qu'il y a un réseau, ils connaissent l'association, en tout cas.
D'accord. Et les parents, en fait, qui sont restés en Ukraine, ils ont fait le choix de rester pour le pays, en fait, pour combattre ?
C'est ça. Pour combattre ou pour aider le reste de la famille, pour soutenir, par exemple, j'ai la maman d'un de mes amis qui tous les jours va cuisiner pour l'armée. Parce qu'il faut aussi maintenir la tendance.
On parle des hommes qui se mobilisent sur le front en Ukraine, mais les femmes aussi se mobilisent énormément sur le front, pour certaines, et derrière, pour soutenir justement les soldats. Vous avez des témoignages de vos familles là-dessus, Tatiana, Anna ?
Je crois que plus globalement, il n'y a pas que les hommes et les femmes qui se mobilisent, il y a toutes les personnes, tout simplement. Et il n'y a pas une personne, je pense, en Ukraine qui n'est pas mobilisée à l'heure d'aujourd'hui. C'est-à-dire que chacun mène sa bataille sur son front. Il y a des militaires qui vont combattre en première ligne. Il y a aussi les jeunes, principalement, qui combattent sur le front informationnel. Et il y a aussi tous ceux qui doivent combattre juste en continuant à mener une vie normale. C'est peut-être d'ailleurs ce qui est le plus difficile aujourd'hui, parce que je pense que c'est plus simple de s'engager en tant que bénévole à aider directement que de juste assurer la survie, on va dire, économique du pays en continuant à faire son travail au quotidien, tous les jours, et essayer de prendre de la distance dans la mesure du possible, en fait, pour assurer justement qu'après, une fois que le pays sera sorti de cette guerre, qu'il y a un pays après, en fait. Oui. Et je pense, on n'en parle pas assez, mais je pense que ces gens-là ont aussi un mérite hors pair de juste avoir assez de morale pour continuer à faire ce qu'ils ont à faire, en fait.
Oui. Le président Zelensky appelle à ça, justement, oui. à continuer à travailler, à continuer pour l'économie du pays, parce que le pays doit survivre, va survivre, et doit continuer après cette invasion, justement, économiquement, à fonctionner.
Tout à fait. Et c'est aussi compliqué pour des personnes comme, par exemple, aujourd'hui, moi et Tatiana, qui sont à l'étranger, qui sont pas directement dans les vifs de l'action, mais qui, je pense, c'est notre mission à nous, c'est aussi de faire entendre la voix de l'Ukraine à l'étranger et de la porter à l'international.
Aujourd'hui, les Ukrainiens en Ukraine, ils se sentent soutenus?
Tout à fait. Je pense, aujourd'hui, on vit une très belle démonstration d'une solidarité qui dépasse toutes les frontières, qui est mondiale. Et je pense aujourd'hui, les Ukrainiens sont plus que jamais justement fiers d'avoir l'Ukraine dans leur cœur.
Tatiana, vous...
Absolument d'accord.
Vous êtes d'accord.
Vous savez, il y a un petit témoignage. Il y a mon meilleur ami qui quittait Kiev avec sa famille. Et après, il est revenu, il a rouvert sa clinique de stomatologie. Et il offre les soins gratuitement à tous les Ukrainiens qui ont besoin, surtout en sachant que c'est très dangereux et en travaillant gratuitement juste pour le peuple. Et c'est un des milliers d'exemples qui sur place. Et je suis vraiment fière, encore une fois, d'être ukrainienne.
Fière d'être ukrainienne, fière d'être d'origine ukrainienne. Ça, le monde entier a été bluffé par les Ukrainiens, par leur résilience, par leur force, par leur bravoure. On va faire une petite pause musicale. Juste après, on va se retrouver tous ensemble sur le plateau et on aura une habitante russe au téléphone qui justement va nous donner son point de vue de Russie, en fait, comment ça se passe en Russie, parce qu'on sait qu'il y a une censure. On sait aussi que Poutine agit. Est-ce qu'il agit seul? Est-ce que le peuple est derrière lui ou pas? On lui posera quelques questions à ce sujet. On se laisse avec une courte pause musicale. How can life be what you want it to be? You're frozen when your heart's not open. Alors, c'est une reprise, c'est un nouveau morceau de Madonna avec Sea Kick qui est diffusé. Alors, on a choisi ce morceau, pourquoi ? Parce que Madonna s'est beaucoup mobilisée pour l'Ukraine. Sur Instagram, elle a posté des clips, elle a clairement soutenu l'Ukraine. Ça a été une des premières artistes à le faire. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a choisi ce morceau. L'Hebdo Patrimoine spécial Ukraine, l'humain avant tout. On continue.
L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
On parle ensemble sur, on est en direct hein, sur Radio Immo et sur radiopatrimoine.fr. On parle de cette invasion russe en Ukraine avec moi sur le plateau deux Ukrainiennes hein, qui sont arrivées en France à 18 ans et Tatiana...
19 ans.
19 ans, voilà. Anna Zilchuk, responsable marketing chez Alderan et Tatiana Bondard, directrice associée chez Immo Direct Promoteur. On a aussi en ligne avec nous Walter Apiak, trésorier de la paroisse Saint-Athanase ukrainienne hein, à Lyon, d'origine ukrainienne également. On va tout de suite prendre au téléphone, on va partir à Moscou. Alors c'est Sveltana, on va l'appeler Sveltana, habitante de Moscou. Sveltana, est-ce que vous m'entendez ?
Oui, je vous entends très bien, bonjour.
Bonjour et merci d'être avec nous.
Pas de problème.
Bah, merci.
Je suis ravie de répondre à vos questions.
Ouais. Alors là, on a envie de vous dire tout de suite comment ça se passe en fait. Comment ça se passe à Moscou? Quelle est l'ambiance? Comment vous vivez la chose vous?
Comment ça s'est passé? Je me suis réveillée le 24 comme d'habitude. J'ai allumé la radio et tout de suite. Alors, j'ai compris qu'est-ce qui s'est passé. Tout d'abord, je me suis dit non, c'est pas vrai. Alors, j'ai vérifié partout la même chose. Et après, la vie quotidienne a beaucoup changé. Cela veut dire, comme j'ai mon propre business, on a commencé à subir les difficultés. Si on parle de ce conflit, tout d'abord, on tentait d'écouter des médias indépendants. Après, on a coupé tout. Maintenant, nous pouvons nous appuyer sur les informations d'État. Les gens qui peuvent lire, voir YouTube, ils peuvent avoir son propre opinion, mais on peut dire maintenant que la société est séparée par deux parties.
Oui, alors
des gens qui sont qui sont pour. Je pense que j'étais tellement étonnée parce qu'au début j'ai pensé que ça seront plutôt des gens plus âgés qui seront pour cette opération, mais ce qui m'étonne beaucoup, c'est le fait que beaucoup de gens actifs de 35, 40 ans, ils sont tout à fait pour. Ils pensent que l'État a raison de faire ça. Pour moi, je suis bloquée, stressée, vidée, je suis née en ex-RSS.
Ouais.
J'ai vécu beaucoup de choses et pour moi, c'est comme, dans ma tête, c'est comme un jeu d'enfant quand on lance les dés. Vous savez, et j'ai l'impression que cette situation m'a rejetée en arrière. Et dans ma tête, j'en suis sûre que pour revenir sur le point de départ, il nous faut 5 ans, 10 ans, peut-être beaucoup plus, mais au niveau des relations entre les Russes et les Ukrainiens, je pense que ça va durer... des années et des années.
Oui. Là, plus ça va et moins il y a de retour en arrière possible.
Pardon ?
Plus ça va et moins il y a de retour en arrière possible. Sveltana, vous envisagez de quitter la Russie ?
Vous savez, pour moi, ça serait assez difficile, je pense, de trouver un boulot. Mais j'ai une fille qui a 14 ans et... la décision est prise, c'est décidé que je dois faire tout pour que ma fille vive sa propre vie sans ce cauchemar.
D'accord, donc l'envoyer en dehors de la Russie. Justement, là, vous parliez de tous ces Russes qui, la moitié sont pensent que valide la décision de Vladimir Poutine d'avoir envahi l'Ukraine. Vous, c'est à cause de quoi en fait ? C'est la censure parce que les médias russes sont en boucle. Il y a une vraie, enfin, ils déforment totalement la réalité en fait. C'est à cause de ça.
Je sais pas, je pense que ça a commencé pas maintenant, pendant une dizaine d'années, les médias et la situation actuelle disaient aux gens que tout est bien, la Russie est forte, nous avons raison, blablabla. Et je pense que les gens préfèrent de ne pas analyser, penser. Quand tu penses que tu as raison, c'est plus facile à vivre. Si un jour les gens comprennent que c'est une horreur, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. On a deux solutions. Ou vous acceptez, ou vous devez sortir.
Donc en fait,
lutter contre tout ça. Mais en Russie, c'est pas possible. Pour les Européennes, je pense que c'est assez difficile à comprendre quand vous vivez, combien de siècles dans la démocratie. C'est assez difficile à comprendre que si tu sors tout de suite. Tu es arrêté et tu as une amende ou tu te trouves en prison parce qu'on a implanté une loi selon laquelle si vous avez contre, vous n'êtes pas patriote.
Oui. Du coup, il y a quand même pas mal de personnes là, qui manifestent en Russie et beaucoup se font arrêter. Il y a eu plusieurs milliers d'arrestations. Nous, c'est ce qu'on voit de France. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que justement, on en parle de ces arrestations en Russie ?
Vous savez, quand ça a commencé, on a organisé quelques manifestations. Et pendant l'heure de ces manifestations, on a arrêté beaucoup de gens. Je pense 1500, 1700 de gens étaient arrêtés. Après, on a bloqué tout ça. Cela veut dire maintenant tout est calme et les gens. Il y a beaucoup de gens qui habitent à Moscou, à Saint-Pétersbourg, qui sont partis. Il y a une autre partie de vision, cela veut dire les gens, mes copains, copines qui habitent en Europe, ils me racontent aussi que la vie quotidienne a beaucoup changé parce que en Europe, parfois, on dit, on a l'impression que si tu es russe, tu es responsable pour tout ça. Ça veut dire, parfois, ils commencent à subir...
Mais du racisme.
À subir... je ne vais pas dire le racisme, mais quand même... ça a beaucoup changé.
Et Svetlana, j'avais une question parce que... Il y a pas mal de, il y a eu de nombreux morts côté russe. Hein. L'armée russe a essuyé de nombreuses pertes. Nous, en France, on a des informations comme quoi les Russes qu'on envoie en Ukraine sont très jeunes, démotivés parce que faut quand même le dire, les Russes et les Ukrainiens sont des cousins. Comment ça se passe? Parce que j'imagine 7000 soldats russes, ils ont de la famille, ça fait 7000 familles, ça fait beaucoup plus de Russes touchés, endeuillés. Au bout d'un moment, enfin, ils vont quand même se réveiller et se dire c'est n'importe quoi.
Mais j'ai lu 7000, 10000, 12000, oui, mais On ne dit pas de ça, selon des informations officielles, on a perdu 500 ou 700 militaires là-bas. Et pour les gens, la plupart des gens, c'est pas, on peut pas dire c'est pas beaucoup, mais si comparé 10 000 et 500, cela veut dire que ça ne provoque pas de conflit dans la tête de gens.
D'accord.
On ne prononce pas de chiffres.
Oui, tout est censuré.
On merci. Dit toujours,
Merci beaucoup. Pardon, en tout cas, Zveltana, d'avoir accepté de parler, parce que je sais que c'est pas facile, c'est pas évident, et que vous avez pas le droit, tout simplement. Merci beaucoup. En studio, Tatiana, Anna, qu'est-ce que vous avez envie de dire quand vous entendez ça?
Je trouve que c'est extrêmement dur d'entendre ces témoignages, même de la part des personnes qui parlent français, d'évidence, qui ont accès à des informations, on va dire, objectives, qui peuvent, s'ils veulent, se renseigner sur ce qui se passe réellement. Et je trouve ça assez ahurissant, le déni qu'on peut constater. Appelons également le chat un chat, c'est pas un conflit, c'est une invasion, si c'est pas une guerre. Moi, je suis d'avis que c'est une guerre. Et je ne comprends pas, en tant que personne, comment on peut vivre dans les dénis, comment on peut préférer fermer les yeux et avoir conscience tranquille. Comment on peut dire que 500, c'est pas beaucoup? Comment on peut dire que 500, c'est pas beaucoup, même si c'était 500, d'évidence, c'est beaucoup plus? Chaque vie humaine, elle compte.
Bien sûr.
Comment on peut dire, ah, mais 500, c'est pas grave? Si on voit les... C'est 500 fils de chacun, c'est 500 frères, c'est 500 maris.
Mais 500, c'est pas du tout 500. Hein.
Oui, non, mais je veux dire, même si en Russie, on dit que c'est 500, on dit ça choque pas les gens.
Ouais.
Donc, on ne se soucie pas de l'autre, on se soucie que quand ça nous concerne personnellement. Je trouve ça assez attristant, on va dire, de voir ce type d'attitude.
Tatiana, est-ce que vous voulez rajouter
Ce qui m'a choqué de la part de Svetlana, c'est le mot qu'elle a prononcé pour elle a dit, elle n'a pas utilisé le mot ni invasion ni guerre. Elle a dit, c'est le comment elle dit Poutine, excusez-moi. Hein.
Une opération spéciale.
Opération, voilà. Opération. Le mot opération. Alors, si on utilise aujourd'hui le mot opération, c'est vraiment très, très choquant pour moi. C'est pas une opération. C'est tout sauf opération. Vous voyez? Et la Russie,
c'est le mot qu'il emploie, opération.
Voilà. Et Svetlana aussi, elle a employé aussi.
Dénazification.
Tout à fait.
Si on reprend. Je peux ajouter quelque chose.
Allez-y, Svetlana.
Je peux ajouter. Alors, chez nous, je suis tout à fait d'accord avec vous que c'est la guerre. Je pense que chez vous, on dit aussi cette chose-là, qu'en Russie, c'est interdit de dire la guerre. On dit l'opération spéciale, le conflit, on trouve des mots sauf la guerre. Pour moi aussi, c'est la guerre. Je ne discute pas ce fait.
Oui, oui. Svetlana, vous êtes vraiment...
C'est la guerre. Ah oui, quand j'ai dit si on compare 500 et 10 000, si vous connaissez l'histoire de la Russie qui perd dans la plupart des conflits des millions de vies après la Deuxième Guerre mondiale, on n'a pas trouvé pour le moment, il y a des soldats qui ne sont pas trouvés, cela veut dire ils sont notés comme morts ou qui sont notés comme inconnus. Mais pour la Russie, vous savez, quand la vie ne coûte rien, on commence à... on aime des chiffres. Si on a des chiffres 10 000, ça veut dire que la Russie n'est pas tellement forte.
Ouais. Et ça, justement,
Oui,
je voulais en parler parce que on parlait, enfin, l'international, hein, c'est censé être la deuxième puissance mondiale, la Russie, l'armée russe, et là, en fait, on s'aperçoit que bah les Ukrainiens sont extrêmement résistants, ils tiennent. Enfin, dans la tête de Poutine, apparemment, en 2 jours, il pensait qu'il allait réussir à vaincre l'Ukraine, alors que pas du tout. Il y a une vraie résistance.
Ouais.
Les informations de ce matin, c'était que les Russes étaient démotivés, les Russes qui sont jeunes, qui certains n'étaient même pas au courant que c'était une invasion. Hein. Ils pensaient que c'était un exercice. Ils étaient là à la frontière et puis on a découvert des conversations avec leur maman parce que c'est la plupart ils sont hyper jeunes que voilà ils apprennent sur le moment qu'ils sont envoyés en Ukraine. Ça laisse quand même, on est quand même choqués de ça en fait. On s'aperçoit que bon. Ça va être quoi en fait la suite après qu'est-ce qui va se passer en fait parce que Poutine est fier et on se demande, on voit ça. Alors là apparemment il demande de l'aide. On attend tout à l'heure un échange entre le président américain et le président russe, chinois pardon, parce que la Russie aurait demandé de l'aide à la Chine. C'est effrayant en fait de voir tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez, Tatiana? Vous pensez
que... Ce qui est plus effrayant pour moi, le peuple russe est 140 millions. 140. On peut pas dire qu'on a peur parce qu'on sera arrêté. Même si y a moitié de ces gens-là, même si 10% qui sortent dans la rue, qui montrent leur mécontentement, leur désaccord, ils peuvent pas tous arrêter. Ils peuvent pas punir tout le monde. Ce n'est pas possible. Il faut avoir le courage de dire non et de montrer comme les Ukrainiens le font.
De se relever en fait, de se soulever contre Poutine.
Tout à fait. Absolument.
Est-ce que vous pensez, pas de souci, Anna, est-ce que vous pensez que c'est possible ça, est-ce que vous y croyez en tout cas?
Alors je vais vous raconter une petite histoire pour illustrer mon propos. Quand je faisais mes études à l'université, ma meilleure amie était une Russe, et c'était une belle histoire d'amitié. Après qu'on avait fini nos études, elle était retournée habiter en Russie. On en garde toujours contact. Les premiers jours où la guerre avait éclaté, elle m'avait écrit tout de suite. Elle m'a promis solennellement de partager les informations justes, objectives, et elle m'a demandé d'envoyer les informations que moi je trouvais pertinentes, que sa communauté voit. Ça a duré quelques jours. Au bout de quelques jours, il y a la fameuse loi de non-liberté des paroles, on va dire. Suite à ça, plus rien. Donc, on peut voir que même chez des personnes qui sont plutôt éveillées, plutôt jeunes, qui viennent en Europe faire leurs études, qui sont plutôt conscients de la situation, on voit quand même qu'il y a un petit quelque chose qui manque pour passer
à l'acte.
Du non-accord à l'acte.
Mmh.
Et
à la mobilisation,
à la
publique,
mobilisation
en fait.
Générale, en fait. Ils veulent bien faire un petit effort qui, en soi, n'écoute pas grand-chose. Mais dès qu'il y a le moindre risque pour leur propre personne, ils reculent. Et moi, en fait, je trouve ça m'attriste profondément parce que je me dis que demain, une étudiante ukrainienne qui vient faire ses études en France, étudiante russe, elles ne seront pas meilleures amies. Ça, c'est quelque chose qui va affecter... sur des années et des années, c'est pas sur des décennies, des belles amitiés qui pourraient se créer, des partages, des conversations, et surtout un consensus et une compréhension, parce que comment peut-on comprendre l'autre si on ne va pas à sa rencontre, si on ne lui parle pas, si on ne comprend pas quelles sont ses peines, ses combats. Donc ça ne va faire que fermer le dialogue, et ça n'aboutira à rien de constructif.
Et justement, j'aimerais rajouter quelque chose. Alors, parce qu'on parle souvent, la plupart des personnes découvrent en fait, entre guillemets, les conflits, comme ils appellent ça, entre la Russie et l'Ukraine. Alors, moi, je trouve, sur aucun plateau télé, on a parlé de l'Holodomor. L'Holodomor, on connaît quand on est d'origine ukrainienne, parce que il y a eu quand même 5 millions de morts. C'est un génocide qui avait été orchestré par Staline contre les Ukrainiens, qui les a laissés mourir de faim. Les Ukrainiens, 5 millions de morts. Il y en a qui ont pu partir. Moi, ça a été le cas de mes arrière-grands-parents avec ma grand-mère, par exemple, qui ont pu fuir en Pologne. Même en Pologne, ils étaient interdits de travailler. C'est-à-dire que les vrais Ukrainiens n'avaient pas le droit de travailler en Pologne. Donc, ils ont fui en France. Et c'est quand même une persécution qui date pas d'aujourd'hui, en fait. Et justement, alors, oui, il y a quelque chose de... Il y a un passif... Et là, ça, vraiment, on pensait que c'était terminé, mais en fait, ça ne l'est pas du tout. Qu'est-ce que vos familles, en fait, quand c'est arrivé, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Est-ce qu'ils s'y attendaient à ça?
Mais je pense même aujourd'hui, ils ont du mal à croire qu'est-ce qui se passe, que c'est la réalité, c'est un cauchemar, qu'on veut tous se réveiller et de dire, mon Dieu, c'était un cauchemar. Ce n'est pas possible qu'en 2022, effectivement, je suis d'accord avec vous, que ça se reproduise presque, enfin, c'est pas le de mort, mais cette attaque lâche contre pays qui a rien demandé. C'est vrai, ils ont du mal à comprendre, même aujourd'hui. Et je pense, c'est pas que eux, c'est toute la planète, je pense. C'est pas réaliste, c'est encore, on a du mal, effectivement. C'est 23 jours de cauchemar qui on a du mal à réaliser que c'est malheureusement la vérité.
Et quand les Américains nous ont alertés, quand les Russes étaient à la frontière ukrainienne, parce que c'est les Américains qui ont alerté en premier, qui ont dit ça va se passer. Nous, on n'y croyait pas. On s'est dit, même en France, on s'est dit, Poutine dit que c'est une opération, un exercice, voilà. En Ukraine aussi, on avait du mal à y croire, on n'y croyait pas. Vos familles, comment elles ont
réagi ? Ils sont rentrés du travail vendredi soir, ils sont couchés comme d'habitude en regardant la télé, ils se sont réveillés à 5h du matin parce que les vitres ont été brisées par les éclatements de bombes. Vous voyez, c'est juste... personne qui peut croire à ça et d'imaginer possible.
Du côté de ma famille, c'était tout à fait pareil, à vrai dire. Jusqu'au 24 février, nous n'avons jamais abordé ce sujet au téléphone. Jamais. Même on me demandait, les collègues au travail, est-ce que tes parents sont pas un petit peu inquiets? Est-ce qu'ils te parlent de la situation? Je dis, non, sur place, personne se soucie de ça. C'est-à-dire que c'était complètement surréaliste. Et le 24 au matin, je vais appeler ma mère et me dit, la nuit, je me suis fait réveiller par les bruits d'avions de chasse qui survolaient la ville. Et elle s'était réveillée à 3h du matin, si je ne me trompe pas, en ne sachant pas du tout ce qui se passe, en entendant juste les bruits des avions qui survolent la ville. Et elle dit que c'était la chose la plus terrible qu'elle a jamais vécue de sa vie. Parce que cette absence d'information, oui, et la compréhension, cette réalisation que la guerre avait commencé, c'était absolument terrifiant parce que personne ne s'y attendait.
Oui. Et d'entendre le bruit des avions, on ne sait pas en fait si ça ne va pas tomber sur notre maison.
On ne sait pas où ça va. On ne sait pas où est-ce que ça va, où est-ce que ça va tomber, où est-ce que ça va atterrir, est-ce que ça fait que juste passer. Mais c'est justement cette absence d'information qui fait le plus peur.
Le président Zelensky s'est mobilisé, plus que mobilisé, il est resté en Ukraine, il y est toujours. On lui a proposé d'être exfiltré, il a refusé, il a répondu aux Américains qu'il n'avait pas besoin d'un taxi mais d'armes. Qu'est-ce que vous pensez de ce président, Tatiana?
Je pense qu'il est à l'image de notre peuple ukrainien, courageux et... je dis juste bravo. Avec ses petits moyens, cette manque d'information, effectivement, il fait tout pour, il montre au peuple qu'il est présent, et ça, c'est le plus important. Je dis juste bravo.
Il fait beaucoup de communication sur les réseaux Instagram, Twitter. C'est aussi alors il y a une guerre des communications là. C'est à celui qui parlera le plus. La Russie essaye d'écraser vraiment de donner de fausses informations. Anna, qu'est-ce que vous pensez du président Zelensky?
Alors je pense aujourd'hui c'est un vrai exemple à suivre pour le peuple ukrainien, un exemple de résilience, de courage et tout simplement, je pense que ce sera un modèle à suivre pour des jeunes qui les regardent aujourd'hui et qui auront pour le coup une image positive de la figure présidentielle, je pense.
Oui. Et on s'attendait pas à ça en Ukraine, venant de ce président. On l'avait pris un peu. Bon, c'est un ancien comédien. Il a été élu parce qu'on c'était un barrage en fait à l'autre candidat. On pensait pas en fait qu'il allait agir comme ça. C'est une belle surprise. C'est
très belle surprise. Oui, effectivement. J'aurais préféré que de pas avoir les surprises comme ça.
Mais on aurait préféré pas le savoir. Oui. Mais comme quoi. On peut ne pas être un politique à la base et agir mieux que tous les autres politiques.
Effectivement.
Mais je pense aussi qu'il n'est pas seul. Quand les gens ont fait ces choix, quand ils l'ont élu, ils ont aussi voté pour un gouvernement qui était derrière. Et je pense qu'il doit être bien accompagné dans ces choix aussi.
Oui. Et vos amis en Ukraine, Anna, vous me disiez que... qu'est-ce qu'ils pensent du président ukrainien ?
Alors, on ne parle pas beaucoup politique avant,
ah oui.
avant cette invasion. Mais je pense que c'est un choix pour les jeunes qui était le seul possible.
Et vous m'aviez dit hors antenne, en préparant cette émission, que les gens en Ukraine, alors je ne sais pas si vos amis ne votent pas beaucoup.
Non. Malheureusement, je pense comme en France aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de personnes qui ne vont pas voter.
Et qui sont désintéressées, vous voulez dire, de la
vie politique en général. Mais je pense justement que cette situation va éveiller les consciences et créer de l'intérêt pour la politique, parce que les jeunes notamment vont comprendre que c'est aussi leur rôle d'assurer l'avenir de leur pays, et c'est à eux de s'intéresser à la vie politique pour qu'à l'avenir, les pays se portent bien.
Oui, donc comme quoi c'est important en fait de voter.
Parce qu'en Ukraine, la culture politique, elle est beaucoup moins développée qu'en France. On parle beaucoup moins politique en famille, avec des amis. Mais je pense justement peut-être...
Et pourquoi ? Pourquoi on parle moins politique ?
Peut-être que c'est un sujet qui fâche. Je ne saurais pas exactement vous dire. Peut-être justement comme la situation politique, elle a toujours été difficile. Avec l'histoire de l'Ukraine qui est compliqué, on va dire. C'est un pays qui s'est toujours battu pour sa liberté. Si on regarde, par exemple, les œuvres des classiques de la littérature ukrainienne, c'est un sujet qui est tel un fil rouge, en fait, de la littérature. Donc, en plus, nous, quand on était plus jeunes, quand on lisait ça, on ne pouvait pas saisir tout à fait ces œuvres-là. Alors qu'aujourd'hui, je pense, si on les relisait, on aurait un regard tout autre.
Tatiana, vous êtes d'accord ?
Je pense, oui. Il y avait déception aussi après la révolution orange, parce que quand même le peuple, ils ont descendu dans la rue pour changer des choses, et que finalement après, ils n'ont pas obtenu mieux qu'avant la révolution. Du coup, je pense, voilà, cette déception est fait que avant cette attaque, la politique, elle s'est mise un petit peu de côté. Effectivement, je suis absolument d'accord avec...
Cette invasion va éveiller les consciences et va souder encore plus le peuple ukrainien et voilà, ils vont, enfin je sais même plus quoi dire, c'est l'émotion, mais voilà, cette guerre montre à quel point c'est important d'être soudé et de savoir ce qu'on veut en fait.
Exactement.
Je ne sais pas si Walter Apiak est encore en ligne avec nous. Walter, merci d'être avec nous. Avant de se quitter, refaire un point pour les dons, justement les associations qui donnent. Si quelqu'un veut faire quelque chose à Paris, à Lyon, dans toute la France, est-ce qu'il faut qu'il se rapproche de sa mairie ? Est-ce qu'il y a des associations ?
Alors, les mairies très souvent organisent des collectes à Paris, à Lyon, à Marseille, les églises ukrainiennes également. À Paris et à Marseille, comme à Lyon, ils ont été débordés par les dons, ils ont été obligés de changer de locaux. Donc à Paris, la collecte reprendra mercredi dans une nouvelle église rue Palatine, dans la crypte du Rosaire. À Marseille également, ils ont un nouveau local qui a été mis à disposition par une église voisine. À Lyon, on espère la même chose. Donc, on peut, dans les trois cas, apporter, comme on l'a dit tout à l'heure, des médicaments, des produits d'hygiène, de l'alimentation. Les gens peuvent aussi faire des dons des dons financiers qui sont aussi importants. Il y a une association qui existe à Paris depuis 2014, AMC France-Ukraine, Aide médicale caritative.
On peut donner en ligne avec la carte bleue sur AMC.
Exactement, et là je lisais ce matin avant de me connecter qu'ils ont réussi à faire partir des convois, ils envoient de l'aide humanitaire pour les hôpitaux, c'est vraiment ce qui est le plus urgent, les hôpitaux ont besoin de tout pour soigner les blessés, pour soigner les soldats.
Et j'aimerais rajouter, pour venir en aide aux réfugiés ukrainiens aussi, la fondation I Love You fait appel à la générosité des professionnels de l'immobilier et du grand public et a lancé une grande collecte baptisée I Love Ukraine. Voilà, c'est en place, donc vous pouvez aller voir sur Internet. On a envie de dire, on peut donner partout, tout le monde se mobilise. J'ai envie de terminer sur une note un peu plus, un peu plus pleine d'espoir. Voilà, donc on peut faire à notre échelle, on peut aider.
Il faut
et on peut aider.
Merci déjà pour toutes les aides qu'on a reçues aujourd'hui. C'est très touchant.
Merci Tatiana d'être venue sur le plateau. Tatiana Bondard, directrice associée chez Immo Direct Promoteur. Merci Anna Zilchuk, responsable marketing chez Alderan. Et merci à Walter Apiak qui nous a accompagnés aussi à Lyon, qui est trésorier de la paroisse ukrainienne Saint-Athanase. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Je sais que c'était dur pour vous. Et voilà, merci beaucoup.
Merci à vous.
Et nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain numéro d'Hebdo Patrimoine.
L'Hebdo Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.